Borgia. Chapitre 36. Des honneurs funèbres. Lorsque Rosa Van Otso eut achevé son récit, il y eut dans la caverne quelques minutes de ce profond et pénible silence fait d'inquiétude et d'émotion violente où la parole devient inutile et impuissante. Ragastens se reprit le premier et résuma la situation.
« Il ne reste qu'une chose à faire, conclut-il, c'est de nous emparer de la jeune femme de notre ami et d'achever en la réveillant l'œuvre audacieuse du sauvetage entrepris par madame. »
Il désignait la maga, puis se tournant vers elle, « Combien de temps le narcotique agira-t-il sans danger? Pouvez-vous le préciser ?»«
2 jours et 2 nuits, répondit la maga.
« Bon, c'est plus qu'il n'en faut. En effet, si l'enterrement a lieu demain... »«
Du courage, Raphaël, le plus dur est passé, que diable !»
Au mot « enterrement », Sanzio avait frémi et chancelé.
« Continuez, mon ami, » fit-il en se remettant.
« Donc, la cérémonie devrait avoir lieu demain, puisque, pour tout le monde, Rosita est morte. Elle n'est vivante que pour nous.
Dès lors, » continua le chevalier, « les choses deviennent faciles.
Nous attendons la nuit, nous pénétrons dans le petit cimetière de Tivoli, et en quelques minutes, nous réveillons la belle endormie.
« C'est à ce plan que je m'étais arrêté, » dit à son tour la maga.
« C'est dit, » reprit Ragastens. « Eh bien, mes amis, puisqu'il n'y a rien de mieux à faire pour l'heure et que nous avons tous besoin de force demain, dormons, pendant que les estafiers de Borgia battent la campagne. Ou plutôt, dormez, car moi, j'ai un mot à dire à ce pauvre Spadacap qui nous attend avec les chevaux.
Le conseil du chevalier est bon, » fit Machiavel. « Dormons, Raphaël. » La maga et les deux hommes s'accotèrent comme ils purent pour achever la nuit. Quant à Ragastens, il se glissa au dehors par la fente de rocher que lui avait indiquée la maga. Il se trouva alors dans le bas du ravin, près de l'endroit où l'agneau, tombant à grand fracas, creusait un lac resserré, avant de fuir au fond de la gorge vers la plaine. En face, de l'autre côté du ravin et tout en haut, se trouvait la caverne que tout à l'heure les sbires du pape avaient envahie. Ragastens leva les yeux de ce côté. Tout était paisible dans l'obscurité et le silence. Il commença à escalader les flancs abrupts du ravin, parvint au sommet et examina soigneusement la campagne. Mais il ne vit rien. Ragastens s'élança dans la direction de la petite porte par où il avait pénétré dans l'intérieur du jardin avec la complicité du sieur Boniface Bonifazi. Il ne tarda pas à arriver au petit bois où Spadacap avait reçu l'ordre de garder les chevaux scellés et bridés, prêts pour la fuite. « Pourvu qu'il ne l'ait pas trouvé, » pensa-t-il. Il s'avança avec précaution lorsque tout à coup, près de lui, retentit un hennissement.
« C'est capitan, » murmura-t-il. « Il n'a pas besoin de me voir pour me reconnaître. Ah, mon bon compagnon !»
Un instant plus tard, Ragastens rejoignait Spadacap.
« C'est vous, monsieur le chevalier ?» fit celui-ci. « Il y a 2 minutes que je me doutais que vous étiez dans le bois. Votre capitan voulait absolument m'échapper. »«
Tu n'as rien vu ?» demanda Ragastens.
« C'est-à-dire que j'ai entrevu au loin des torches qui couraient. J'ai entendu des cris. » Puis il m'a semblé qu'un groupe de cavaliers sortait de la villa et descendait la montagne.
J'ai compris qu'on vous poursuivait, et si vous ne m'aviez positivement ordonné de ne pas bouger, quoi qu'il advînt, je me serais avancé avec les chevaux dans l'espoir de vous rencontrer.
Ah, monsieur le chevalier, j'ai bien cru que je ne vous reverrai plus.
Tu dis que le gros de cavaliers a descendu la montagne?
J'en suis certain, aucun n'est monté vers Tivoli.
« C'est donc qu'on suppose que nous avons cherché à gagner la route de Florence. »«
En ce cas, Tivoli n'est pas surveillé. »«
Tout est à merveille. »« Tu vas reconduire les chevaux au panier fleuri et tu attendras là, en 10 ans,
si on t'interroge, que nous faisons une excursion à pied parmi les curiosités de la montagne. Si l'éveil a été donné dans Tivoli, si on y parle de ce qui s'est passé à la villa, tu m'attendras ici pour me prévenir. J'ai compris. Puis, dès la pointe du jour, tu te procureras une voiture solide, attelée de deux bons trotteurs. Voici de l'argent. Il faudra que la voiture puisse courir très vite par tous les chemins. Et tu auras soin qu'elle demeure attelée pendant toute la journée. Tu inventeras un prétexte quelconque pour expliquer la chose. Enfin, tu me tiendras prêt un habillement complet comme en portent les paysans de Tivoli. Va, demain matin, c'est-à-dire dans 3 ou 4 heures, tu me verras. Tu as bien compris ? Spadacap fit signe qu'on pouvait se fier à lui et s'éloigna, entraînant les chevaux. Confiant dans les ressources de ruse et d'audace de l'ancien truand, Ragastens regagna plus tranquille la caverne, où il s'allongea aussitôt sur un tas de feuilles mortes et dormit à poing fermé. Un rayon de soleil filtrait à travers les ronces qui cachaient la fente par où il était sorti et rentré lorsqu'il se réveilla. Il vit Raphaël et Machiavel qui causaient dans un coin avec la Maga. « Bonjour, » fit-il gaiement. « Déjeunons-nous ce matin ? J'ai prévu le cas où je serai obligé de séjourner plusieurs jours ici, » répondit la Maga. « J'ai du vin pour donner des forces et du biscotelto avec quelques tranches de viande fumée. » Ragastens et Machiavel firent seuls honneur à ce modeste repas. Le chevalier rendit compte des dispositions qu'il avait prises avec Spadacap et annonça qu'il allait immédiatement se mettre en campagne. « Voulez-vous de moi ? » demanda Machiavel. « Non, il vaut mieux que je sois seul, c'est même indispensable. À deux, nous risquerions d'être remarqués et tout serait perdu. Ne bougez pas d'ici, et vers la fin de la journée, je viendrai vous indiquer le moment d'agir. Puissiez-vous être heureux un jour et voir vos désirs se réaliser ? Dit la Maga avec une étrange solennité. « Vous méritez le bonheur. » Ragastens tressaillit. « À quoi voyez-vous que je désire quelque chose ? » demanda-t-il en essayant de rire. « Enfant, je suis bien vieille et j'ai bien souffert. J'ai appris à lire sur le visage des hommes. Je vois, je devine qu'un tourment se cache au fond de votre cœur. Et je souhaite ardemment que vous soyez aimé comme vous le méritez. » Ragastens, plus ému qu'il ne voulut le paraître, serra la main de ses amis et s'élança au dehors, tout pensif. Il s'engagea dans un sentier qui contournait de hauts rochers. Parvenu en haut du ravin, il constata que rien d'anormal ne semblait se passer dans la montagne. Seul, quelques chevriers apparaissaient par-ci par-là dans la grande lumière rose du matin. La villa du pape était muette et mystérieuse, comme à l'ordinaire. Seulement, la cloche de la chapelle sonnant d'intervalle en intervalle jetait dans l'air ses notes mélancoliques. Il parut évident à Ragastens que les recherches des cavaliers du pape s'étaient portées au loin. Il ne se trompait pas. Rodrigue Borgia, après le départ de Sanzio, de Machiavel et de Ragastens, s'était mis à crier et à appeler au secours. On avait fini par l'entendre et on l'avait délivré. Le pape, d'après l'entretien qui venait d'avoir lieu, avait supposé que les trois hommes connaissaient la Maga, qu'ils savaient en quel coin elle habitait et qu'ils se dirigeraient sans doute vers la caverne. Ce fut donc là qu'il envoya ses gardes, d'autant mieux qu'il voulait du même coup s'emparer de la Maga. La caverne fut trouvée vide. Borgia supposa alors que tous les quatre avaient rejoint la grande route de Florence. Et c'est cette route que ses cavaliers battaient encore, tandis que Ragastens, par un grand détour, gagnait Tivoli. À l'entrée du village, il trouva Spadacap qui l'attendait. « Que dit-on dans Tivoli ? » lui demanda-t-il. « Rien, sinon qu'une personne est morte cette nuit dans la villa pontificale et qu'on va l'enterrer aujourd'hui.
Très bien.
La voiture ?
Prête. Attelée dans la cour du panier fleuri. Une voiture solide. Des chevaux capables de descendre la montagne au galop. Le vêtement des paysans est prêt aussi.
Spadacap, tu es un homme précieux.
Je vous l'avais bien dit, monsieur, répondit modestement Spadacap. Tous deux gagnèrent alors l'auberge du panier fleuri, dans laquelle ils entrèrent par une porte de derrière, donnant sur les champs. 10 minutes plus tard, Ragastin s'en sortait sans avoir été remarqué, vêtu comme un cultivateur qui s'en va au travail, une bêche sur l'épaule. Toute la journée, il erra aux alentours de la villa sans la perdre de vue. Enfin, le soleil baissa sur l'horizon. Il commençait à redouter que la cérémonie funèbre n'eût été remise au lendemain lorsqu'il entendit les cloches de la chapelle sonner à toute volée. Bientôt, la porte principale de la villa s'ouvrit toute grande. Plusieurs prêtres apparurent, précédés d'un porte-croix et psalmodiant les prières des morts. Puis, ce fut le cercueil, couvert d'un drap blanc et porté par 8 domestiques à livrée pontificale. Ragastins sentit son cœur battre violemment à la pensée de la jeune fille étendue dans la bière. Il frémit et, malgré tout son courage, il ne put se défendre d'un moment de terreur. Derrière le cercueil venaient une 20aine de soldats formant escorte, puis enfin les habitants de la villa suivant en procession. Le cortège passa à 50 pas de Ragastins, caché dans les broussailles. Il se mit à suivre de loin. Lorsque le cortège funèbre entra dans Tivoli, un grand nombre d'habitants vinrent s'y mêler. Ragastins put dès lors rejoindre la procession et se confondre dans la foule. À l'église, Ragastins entra comme tout le monde. Les prières furent chantées. Puis un silence se fit. Le prêtre faisait le tour du cercueil et, selon le rite, l'aspergeait d'eau bénite. Le cercueil avait été placé au milieu de l'église, sur des tréteaux. 4 soldats, l'épée à la main, s'était immobilisé aux 4 angles près de 4 cierges. Enfin, le prêtre regagna l'autel, puis disparut dans la sacristie, accompagné des enfants de chœur, des porte-croix et des autres prêtres. La cérémonie était terminée. La foule commençait à sortir. En quelques minutes, l'église se trouva vide. Il n'y eut plus, auprès de Ragastins, qu'une vieille femme qui, elle-même, se disposa à se retirer.
« Eh bien, » fit machinalement Ragastins, « on n'emporte donc pas le cercueil au cimetière ?»«
Comment ?» se récria la vieille femme. « Vous ne savez donc pas ? Le Saint-Père a décidé que le corps serait enterré à Rome, où une voiture la transportera demain. »«
On va la transporter à Rome ?» balbutia-t-il.
« Mais oui, vous ne saviez donc pas ?»
Et sa sainteté, pour faire honneur à la pauvre petite, a décidé qu'une garde d'honneur veillerait toute la nuit auprès du cercueil.
Ragastins sortit de l'église, livide, chancelant. Il se mit à arpenter lentement la rue, dans la direction du panier fleuri, tournant et retournant l'effrayante question « Comment ouvrir ce cercueil que gardent des soldats ?»
À 50 pas de l'église, il vit un hangar adossé à une auberge. Sous ce hangar, l'escorte qu'il venait de voir passer s'était arrêtée. Déjà, les soldats avaient déposé leurs armes et leurs manteaux de cérémonie. 2 ou 3 d'entre eux, en pourpoint, bâillaient devant la porte de l'auberge. Ce hangar allait servir de poste à l'escorte qui, pendant tout le séjour du cercueil à l'église de Tivoli, fournirait la garde d'honneur. Ragastins les compta rapidement. Il y avait 16 hallebardiers.
Et les 4 qui gardent le catafalque, ça fait 20, murmura-t-il.
Dans la salle basse de l'auberge, l'officier qui commandait ce détachement était déjà attablé, lutinant une jolie servante qui venait de lui apporter à boire.
Ragastins observa tous ces détails dans un rapide coup d'œil. « Comment ouvrir le cercueil ?
La question revenait sans trêve, pendant qu'il avait l'air très attentif à examiner les hallebardiers, comme un bon badaud qui s'étonnait de la présence des soldats dans le paisible village. Puis il s'éloigna.
« 4 !» pensa-t-il. « La relève se fera toutes les 2 heures. 4, c'est beaucoup, mais pas au-dessus de mes forces. L'essentiel sera d'agir sans bruit. »
Rentré au panier fleuri, il se hâta de se dépouiller des vêtements de paysan que Spadacap lui avait procurés et reprit son costume de cavalier. Il s'aperçut alors qu'il avait grand faim.
« Fais-moi apporter à dîner, » dit-il à Spadacap.
Celui-ci s'élançait, mais Ragastens le rappela. « Non, » fit-il, « inutile. J'ai changé d'idée.
Monsieur le chevalier a l'air tourmenté. Un bon dîner, au contraire, ne gâterait rien.
Je sais, je sais. Aussi ne renonçais-je pas à dîner. Seulement, je dînerai ailleurs, voilà tout.
Vous sortez, monsieur ?
Oui. Toi, veille et attends ici.
Et la voiture, faut-il la conserver ?
Plus que jamais. À propos, Spadacap, te chargerais-tu, le cas échéant, d'étourdir un homme d'un seul coup de poing, de façon qu'il tombe sans même pouvoir crier ?
Cela m'est arrivé, monsieur.
Et s'il te fallait étourdir 2 hommes ?
On peut essayer.
Oui, je crois pouvoir répondre de 2 hommes qui ne seraient pas prévenus.
Mais, monsieur, si le coup de poing ne réussissait pas ?
Ragastens tressaillit. L'idée de tuer les 4 factionnaires se présenta à lui pour la première fois, et cette idée lui causa une insurmontable horreur.
« Que faire ? » songea-t-il, pâle d'angoisse.
Et il s'en alla sans répondre à la terrible question de Spadacap. Il se dirigea droit sur l'auberge, dont le hangar servait de corps de garde improvisé ou hallebardier. Il entra délibérément dans la salle commune. L'officier était toujours là. Ragastens se mit à appeler en vociférant, de manière à concentrer sur lui l'attention de l'officier.
« Tudieu, ventre bleu, cordieu, corbac !»«
À la bonne heure !» cria l'officier qui, dans un coin, était attablé devant un dîner qu'on venait de lui servir. « Si cet officier vient de Rome, et s'il m'y a vu, il va me reconnaître, » pensa Ragastens. « Voyons !» Et il continua ses appels furieux en frappant du pommeau de son épée sur une table. 2 ou 3 servantes accoururent, effarées.
« Que faut-il servir à monsieur le cavalier ?»«
À dîner, corbac ! Je meurs de faim ! Morbleu, plus vite que cela ! C'est déjà bien assez que je sois forcé de dîner seul ! S'il faut encore attendre !»
L'officier se leva et vint droit sur Ragastens.
« Attention !» se dit celui-ci.
« Monsieur, » dit l'officier en saluant, « je vois que vous êtes homme d'épée. »«
En effet, monsieur, cela vous ennuie de dîner seul ?»«
Cela m'assomme, monsieur. À Naples, d'où je viens, nous avons l'habitude de mener une vie pas trop triste. Nous sommes quelques-uns qui aimons la franche ripaille autant que les bons coups d'estoc. Vous comprenez mon ennui ?»«
Eh bien, monsieur !» s'écria l'officier épanoui.
« Figurez-vous que je suis exactement dans la même situation que vous.
Vous plairait-il d'associer nos 2 ennuis et de partager mon dîner ?»«
Ma foi, monsieur, voilà une invitation qui me touche. Je suis tout vôtre. »«
À une condition pourtant. »«
Laquelle, monsieur ?»«
C'est que vous me permettrez de vous traiter en ami, c'est-à-dire que j'entends payer la dépense. »«
Je n'y vois aucun inconvénient. » « Si vous me permettez de me charger des vins, » fit l'officier de plus en plus ravi. « À table donc, mon cher hôte !»«
Il ne me reconnaît pas, » se dit Ragastens en s'asseyant vis-à-vis de l'officier. Il reprit tout haut.
« Pourriez-vous, mon cher monsieur, m'expliquer comment il se fait que je trouve un officier de hallebardiers pontificaux dans cette auberge de village ? Vous venez de Rome, peut-être ?»«
Rome, » fit l'officier en soupirant. « Il y a 6 mois que je n'y ai pas mis les pieds. Vous voyez en moi un exilé. »«
Exilé ? Auriez-vous encouru quelque disgrâce ? » ?»«
Non, c'est une façon de parler.
Sa sainteté m'a commis au commandement des hallebardiers de sa villa de Tivoli. Et vous pensez, si je m'y ennuie, sa sainteté vient d'y arriver. J'espère bien rentrer à Rome avec elle. Monsieur, je bois à vous.
À vous, monsieur. Ce Porto est sublime.
Mais puisque le Saint-Père est à sa villa,
pourquoi êtes-vous ici ?
Oh, c'est toute une histoire. Il y a eu cette nuit d'étranges événements à la villa.
Oh, racontez-moi cela un peu.
D'abord, sa sainteté a failli être enlevée.
Enlevée ? Le Saint-Père ?
Positivement, par une troupe de bandits qui le voulaient rançonner.
Oh, voilà qui est étrange.
C'est le Saint-Père lui-même qui nous l'a dit, lorsque nous sommes accourus à ses cris. Nous l'avons trouvé dans le pavillon de son jardin, pieds et poings liés.
Et que sont devenus les bandits ?
Qui le sait ? Ils ont disparu, emportés par le diable, peut-être, et encore.
Quand je dis le diable, ce n'est pas une vaine superstition qui me fait parler.
Je n'en doute pas, cher monsieur. Bien que ce ne soit pas une superstition de croire au diable, fit Agastins goguenard.
Tout juste. Vous allez voir. Sur les indications du Saint-Père lui-même, on supposait que ces bandits s'étaient réfugiés dans une caverne qui jouit d'une assez mauvaise réputation.
À ce moment, un hallebardier entra dans la salle de l'auberge. L'officier interrompit son récit et, se tournant vers le soldat,
« Que veux-tu, toi ? Ne peut-on boire tranquille ?»«
Lieutenant, je viens vous prévenir qu'il est l'heure de remplacer la garde d'honneur. Vous m'en avez donné l'ordre. »«
C'est bon. File !»
Le hallebardier disparut.
« Voilà les plaisirs de la corvée. Dire que toute la nuit, je vais avoir à me déranger de 2 heures en 2 heures.
Mais où en étais-je ?
À la caverne, mal renommée.
Ah oui. Eh bien, c'est là que les brigands s'étaient réfugiés en compagnie d'une vieille sorcière, leur complice.
Nous arrivons à la caverne, plus personne.
C'est miraculeux.
Comme vous dites, cher monsieur,
tout le pays était occupé, la caverne cernée. À moins de supposer qu'ils ont, de bon cœur, sauté dans le gouffre de l'agneau, il faut croire que le diable les a emportés.
Et c'est ce que tout le monde croit,
acheva l'officier en vidant son verre d'un trait et en se levant.
« Voilà, certes, d'étranges événements, » dit Agastins.
« Oh, ce n'est pas tout, »
reprit l'officier d'une voix pâteuse.
« Tenez, voulez-vous venir avec moi ? Vous verrez quelque chose de curieux. »«
Est-ce loin que vous allez ?» demanda Agastins, du ton d'un homme qui ne tient pas à interrompre son dîner. Un tressaillement de joie l'avait agité. Mais cette joie, il la déguisa sous un masque d'indifférence.
« Tout prêt, » dit l'officier, « à l'église.
»« Ce n'est pas l'heure d'aller à messe, ni à vêpres, » fit Agastins en riant.
« Non, mais venez, vous verrez. »«
Eh bien, soit, pour vous tenir compagnie. »
Suivi de Agastins, l'officier sortit de l'auberge. Devant le hangar, 4 soldats attendaient, la hallebarde au poing. La petite troupe se mit en route. La nuit était venue et déjà la maison de Tivoli s'était fermée. Agastins affecta de marcher près de l'officier et de lui causer familièrement, de façon que les soldats pussent bien constater cette intimité. On arriva à l'église. Les 4 nouveaux factionnaires prirent la place de ceux qu'ils venaient de relever, puis l'officier revint aussitôt à l'auberge en ramenant les hallebardiers dont le tour était fini.
« Vous avez vu ? » demanda-t-il à Agastins, lorsqu'ils furent installés de nouveau à table.
« En effet, c'est assez lugubre, ce cercueil avec ses hallebardiers, comme si le mort devait s'enfuir. »
L'officier éclata d'un rire épais.
« Pas de danger, mais le mort est une morte. Et ce n'est pas pour l'empêcher de s'enfuir que mes soldats montent la garde. »
C'est pour lui faire honneur.
Une morte, dites-vous ?
Chut ! Il paraît que c'est une parente du Saint-Père. Une parente très rapprochée. Quelque chose comme sa fille.
On dit que le pape, dans son jeune temps...
Justement.
Et même maintenant.
en sorte que la défunte, c'est le fruit d'une de ces passagères amours dont le pape sanctifie parfois les dames romaines. Pauvre petite, 16 ans à peine. Vous l'avez vue? Oui. Le soir, dans le jardin, je commençais même à en devenir amoureux.
Diable, pensa Ragastens, est-ce que cet imbécile aurait le vin idyllique?
Dans ces conditions, poursuivit-il à haute voix, je comprends la garde d'honneur. Mais, comme vous disiez, c'est une corvée pour vous.
Une corvée d'autant plus dure que l'obligation de me déranger toutes les 2 heures va me faire manquer une occasion superbe.
Laquelle? Contez-moi cela. Vous voyez cette petite servante avec son pied de marquise, sa jupe courte et ses yeux incandescents. Eh bien, elle raffole de moi. Elle vient de me le dire. Mais la consigne avant tout.
De minute en minute, Ragastens versait à boire à l'officier.
« Ah ! » soupira-t-il en jetant un regard sur la servante qui allait et venait dans la salle. « S'il n'y avait pas cette maudite corvée qui vous empêche de concilier la corvée et l'amour !» fit Ragastens à brûle-pourpoint. L'officier le regarda d'un air hébété.
« Que voulez-vous dire ? » bégaya-t-il.
Que diable ! Entre camarades, on se doit quelque chose. Je vous remplacerai.
Vous ?
Moi ?
Pourquoi pas ?
Je suis du métier, camarade.
La consigne, fit l'officier avec un effort pour reprendre son sang-froid. Je ne veux pas...
Envoyez donc la consigne au diable.
Voyez la jeune fille qui tourne vers vous un œil langoureux.
Morbleu ! Il vous faudrait du courage.
Du courage, oui, j'en aurai.
À boire.
Ragastens fit signe à la servante qui s'empressa de venir verser. Il n'y avait plus personne dans l'auberge. Les maîtres s'étaient couchés. La porte principale était fermée. Ragastens se leva tout à coup et embrassa la jolie servante sur les 2 joues.
Morbleu, c'est frais, c'est velouté. Ah, oh, camarade.
« Je prends votre place puisque vous gardez la consigne. »
La servante ne se défendait qu'à peine. Ragastens la poussa sur les genoux de l'officier.
« Oh, la friponne » fit-il. « Elle ne veut pas de moi. »«
Oui, hoqueta l'autre. Elle m'aime. »«
Allez donc dormir. Je suis là pour la consigne. »
L'officier se leva en titubant et s'appuya au bras de Ragastens.
« Tu es un véritable ami.
Comment t'appelles-tu ? » ?
Que t'importe, mon cher ?
Profite de l'occasion. Je me charge de tout. »
« Non, je serai mis en disgrâce. Peut-être pis encore. »
« Va donc, morbleu, je te réveillerai toutes les 2 heures. »
« Ah, pour le coup, voilà la bonne idée.
Va, mon cher.
Ah, le regaillard. »
« Eh bien, « écoute, » fit soudain l'officier, « le mot de passe est Tibre et Tivoli. Avec cela, mes gaillards feront tout comme si tu étais moi-même.
Mais tu me jures, toutes les 2 heures.
Toutes les 2 heures, j'irai changer la garde. Et s'il survient un incident, je te réveille.
Embrasse-moi, camarade !»
Ragastens donna l'accolade à l'officier et, moitié le poussant, moitié le soutenant, le conduisit à l'escalier que la jolie servante escaladait déjà. Quelques instants plus tard, il entendit une porte s'ouvrir et se refermer. « Dans 5 minutes, il ronflera, pensa-t-il, et il y en a pour jusqu'à demain. » Aussitôt, il passa par une porte latérale sous le hangar. Les hallebardiers l'avaient vu dîner avec leur supérieur. Ils étaient tous convaincus que Ragastens était un camarade de leur officier venu pour lui tenir compagnie. Cette conviction se fortifia lorsque Ragastens, ayant appelé le sergent, lui donna le mot de passe et lui ordonna de désigner les 4 hommes de garde dont c'était le tour de veiller à l'église. Le sergent s'exécuta et salua Ragastens. Celui-ci frémit de joie. Le résultat de sa manœuvre était inespéré.
L'heure de changer la garde étant arrivée, Ragastens accomplit cette cérémonie exactement comme il avait vu faire l'officier. Il exagéra la raideur militaire et son ton rogue donna au hallebardier une haute idée de ses capacités. De retour au hangar, il passa en grognant fort l'inspection du poste. « Qu'on dorme !» fit-il en redoublant de sévérité. « Sergent, vous me répondez du bon ordre. Je ne veux pas entendre un mot. » Sur ce, il sortit comme un homme décidé à accomplir méticuleusement sa consigne et qui ne veut pas se laisser surprendre par le sommeil. Dans la rue, une ombre se dressa près de lui. C'était Spadacap. Ragastens l'entraîna dans une encoignure. « Monsieur, lui dit alors Spadacap, vos deux amis sont au panier fleuri avec une vieille femme, tous trois dans une mortelle inquiétude. Ils m'ont envoyé pour tâcher de vous trouver. Bon, eh bien, tu vas aller leur dire que tout va bien. J'y cours. Annoncerai-je votre retour? Non. Écoute, peux-tu sans bruit amener la voiture jusque sur la petite place de l'église? En mettant de la paille autour des roues et en enveloppant les sabots des chevaux, je réponds du silence. Peux-tu être sur la place dans un quart d'heure? Oui, mais ce sera juste. Bien. Sois donc dans 20 minutes sur la place avec la voiture. Mes deux amis et la vieille femme dont tu parles devront être dans la voiture. Surtout qu'ils ne bougent pas avant de me voir. Spadacap s'élança vers le panier fleuri et Ragastens se dirigea rapidement vers l'église. Il tenait à être seul. Que l'un de ses soldats fût pris d'un doute, qu'un soupçon passât par l'esprit de l'un des factionnaires de la morte, et tout était perdu. Il fallait frapper un seul coup, et que le coup portât. Les quatre hallebardiers lui apparurent vaguement dans la pénombre. Leurs attitudes affaissées indiquaient que le sommeil les gagnait. L'un d'eux dormait même tout à fait. Il dormait debout, appuyé sur sa hallebarde et son sommeil était presque aussi profond que s'il eût été dans son lit, comme il arrive aux soldats habitués à rester debout, immobiles pendant longtemps. Du fond de l'église, Ragastens s'examina un instant la situation. Tout à coup, il s'ébranla. Il avait trouvé. Il marcha droit au dormeur et lui mit rudement la main sur l'épaule. L'homme sursauta. Les trois autres prirent aussitôt une raideur de statue. « Eh bien, mon camarade, » fit Ragastens, « il paraît que vous dormez en faction. Le cas est grave. « Mon officier, » balbutia le dormeur, « la fatigue. » « Il n'y a pas de fatigue pour un bon soldat. » « Dans ma compagnie, » reprit Ragastens, « pour dormir sous les armes, c'est 2 mois de cachot. Et dans les hallebardiers ?» Le soldat pâlit. « Je vais rendre compte du fait à votre officier, qui m'a chargé de le suppléer. Je crois qu'en raison des circonstances, les 2 mois de cachot risquent fort de s'augmenter. Mon officier, je vous promets... »« Mais tu tombes de sommeil. Tu ne peux rien promettre. Et vous trois aussi. Allons, allons, je ne suis pas si mauvais diable que j'en ai l'air. Allez dormir au poste, maro !» Ragastin s'attendit avec une anxiété mortelle le résultat de ces derniers mots. Les quatre soldats eurent ce regard inquiet et méfiant qu'ont les enfants à qui on propose tout à coup un jouet trop beau. « Allez dormir, vous dis-je, morbleu. Je ne veux pas que mon passage parmi les hallebardiers de notre Saint-Père laisse un mauvais souvenir à de braves gens comme vous. Allez dormir, je vous remplace. La morte sera, pour 7 heures, gardé par un lieutenant d'arquebusier. Cela vaut 4 hallebardiers. » Les 4 soldats eurent encore une hésitation. Ragastin sentit la sueur perler à la racine de ses cheveux. « Allez dormir, ou je me fâche » bougonna-t-il. « Merci, mon officier, » fit soudain le dormeur, qui se dirigea aussitôt vers la porte. Les 3 autres le suivirent en répétant « Merci, mon officier ». Ragastens se mordit les lèvres pour ne pas crier de joie. Il tira ostensiblement son épée comme s'il se fût préparé à monter la garde. Les quatre soldats disparurent. Ragastens courut à la porte de l'église. Il les vit s'éloigner dans la nuit. Alors, il attendit quelques minutes, dévoré d'impatience, le cœur lui battant à rompre. Enfin, il lui parut évident que rien ne viendrait le troubler dans l'achèvement de son œuvre. À ce moment, un bruit très sourd, à peine perceptible, se fit entendre non loin de lui. La voiture apparut. Alors, il rentra et courut au catafalque. En une seconde, il eut arraché le drap mortuaire. La bière apparut, éclairée par les cierges. Il introduisit la pointe de son poignard entre le couvercle et la bière. D'une pesée lente, il souleva le couvercle, puis recommença près du clou suivant, puis plus loin encore. Une dernière pesée détacha assez le couvercle pour qu'il pût passer ses deux mains dans la fente. Ragastens se mit à genoux. Il introduisit ses deux mains dans la large fente. Ses muscles se tendirent. Il entendit le grincement des clous qui s'arrachaient. Brusquement, le couvercle sauta. La morte lui apparut, si blanche, si bien morte en apparence, qu'un doute horrible lui emplit l'âme. Il se leva d'une pièce sans pouvoir détacher ses yeux de la jeune femme et, pendant une vertigineuse seconde, les affres de ce travail macabre le dominèrent. Mais il se secoua, ramené à la réalité par l'imminence du danger. Frémissant, il se baissa pour saisir la jeune femme et l'emporter. À ce moment, une main se posa sur son épaule.